On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
Une liberté de penser.
Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
Une force internationale.
Et même, on va plus loin.
Luc, la liberté.
Luc, un sujet avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à l'Université Columbia? Parle-nous de ça.
Écoute, on a pris possession, ça s'est fait durant la nuit, tôt ce matin, donc d'un des immeubles, si tu veux, d'une des résidences qu'on appelle Hamilton Hall. C'est un endroit où des manifestants se sont déjà installés à bien des reprises auparavant. Donc, les étudiants qui s'expriment contre la direction de leur université, au sens où on souhaite qu'elle cesse, par exemple, d'engraisser ses coffres à partir d'argent qui appartiennent à ceux qui appuient Israël. Donc, ils ont pris possession de cet établissement-là après que l'université ait dit vous allez être suspendu des cours. Hein. Il y avait, pour remettre ça en contexte, je vais un peu rapidement, hier, à 2 heures, c'était le moment où on devait quitter le campus, démanteler les campements. Sinon, on allait être suspendu par l'université. Donc, l'idée était de rétablir un semblant de normalité ou en tout cas, tout le moins, de récupérer ce qui appartient à l'université, ce en quoi on contrevenait aux règles de l'université. Et c'est dans la foulée, donc, qu'on s'en est pris à Milton Hall. Donc, c'est un petit groupe. Ils sont actuellement barricadés à l'intérieur. Il n'y a pas eu d'intervention des forces policières au moment où on se parle, mais il y a des négociations entre les dirigeants de l'université et ce groupuscule qui a empêché, là, qui a placé littéralement des meubles qu'on trouvait, tout ce qu'on avait à portée de la main dans la porte pour empêcher l'accès à cette résidence-là qu'on a rebaptisée du nom d'une victime, donc palestinienne. C'est devenu Inns Hall et non plus Hamilton Hall, qui est le nom officiel.
Mais est-ce que ce sont des étudiants de l'Université de Columbia? Ce sont des manifestants qui viennent, tu sais, parce qu'on dit vous allez être éjectés de l'université, là, vous serez pas inscrits à l'université, mais si c'est pas les étudiants de l'Université de Columbia, ils s'en foutent pas mal, les autres.
Ben voilà, c'est là où on surveille finalement est-ce que l'université va intervenir avec les forces de l'ordre. Ça peut changer, bien entendu, les directives ou la stratégie de l'université. On n'a pas de confirmation que l'ensemble des gens qui sont là ne sont que ce qu'on appelle parfois des manifestants professionnels ou des manifestants spontanés, mais qui ne seraient pas inscrits à Columbia. Donc, faut voir. Hein, en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a plus de journalistes, il y a plus de médias actuellement devant la porte d'Hamilton Hall, qu'il peut y avoir d'étudiants du campus qui sont impliqués dans cette histoire.
Vendredi dernier, à son émission, Bill Maher les a traités de narcissiques en disant ils sont plus intéressés à montrer qu'ils sont vertueux qu'à changer vraiment les choses sur le terrain. Tu en penses quoi, toi?
Je trouvais que dans cet extrait-là, tous les deux, on aime bien Bill Maher, c'est pas la première fois qu'on réfère à lui. J'ai trouvé qu'il faisait un peu son âge, entre guillemets, Bill Maher, quand il critique ça. C'est qu'il a été très dur et il a récupéré un discours qu'on a déjà tenu auparavant. Pas plus tard qu'hier, quand on en discutait tous les deux, une des choses sur lesquelles on est revenu, c'est qu'on peut s'exprimer contre Israël. C'est tout à fait légitime de s'exprimer contre Israël. Et ça fait pas de nous des antisémites. Il y a un réel problème quand on regarde comment le gouvernement américain se comporte depuis le début. Joe Biden, quand il regarde les sondages, il a la confirmation de ça. Maintenant, ce que Bill Maher dit, c'est pourquoi vous concentrez là-dessus? Ben écoutez, elle est légitime, la cible, parce que lui leur faisait la morale en disant il y a d'autres problèmes dans le monde. Pourquoi vous concentrez sur celui-là? Et c'est très clair que Bill Maher est 100% derrière Israël. C'est très clair que quand il intervient, il est beaucoup plus dur avec les musulmans, avec les femmes voilées. Disons que son interprétation de la liberté d'expression sur ce sujet-là, disons qu'il appuie plus fort sur l'accélérateur quand ça concerne Israël que quand ça concerne le monde musulman. C'est là où je n'étais pas en désaccord total avec ce qu'il disait. C'était OK, on reconnaît les manies du bonhomme et il n'y a pas là-dedans que des gens intéressés par les réseaux sociaux à augmenter le nombre de gens qui vont les suivre, qui vont liker, comme on dit, hein, qui vont aimer les pages sur Facebook ou qui vont rejoindre les réseaux sociaux. Il y a des inquiétudes tout à fait légitimes. Et là où je te disais hier, là où je débarque du train dans les manifestations, c'est quand on passe d'une critique d'un gouvernement israélien, en plus, c'est même pas Israël au complet, là, qu'on devrait critiquer, c'est quand on passe de ça à des slogans antisémites.
Et ben
là,
oui,
je trouve qu'on franchit un pas qui est... Oui.
Mais Luc, c'est à Columbia, c'est à Sciences Po en France, c'est à l'Université McGill ici chez nous. Écoute, ça devient... le printemps va être chaud, là. Parce que, tu sais, tu le vois, là, à 14h, il y a l'injonction qui va être débattue pour ce qui est de McGill. Et eux autres disent, ben, même injonction ou pas, nous autres, on est là pour rester puis on partira pas. Fait que là, ils vont être obligés d'amener les forces de l'ordre. Ça va ressembler à quoi?
Ça, c'est le propre des, c'est le propre des manifestations étudiantes. Quand ceux-là vont nous répondre, écoutez, si on veut changer des choses, il faut parfois des, on peut même, écoute, je serais pas étonné qu'on nous ramène les bons vieux discours ou les arguments de Martin Luther King, mais quand on dit, hein, c'est de la désobéissance civile. Si une loi n'est pas morale, on a le droit de désobéir. À eux, ensuite, d'assumer, il y a peut-être une part de noblesse chez certains dans les intentions. En même temps, il faudra vivre avec les conséquences de nos gestes, ce que Martin Luther King a fait, parce qu'on se revendique encore de cet héritage-là, la non-violence, la désobéissance civile, ça continue à animer les manifestants dans ce genre d'événement-là. En même temps, moi, est-ce qu'on a les bonnes cibles, finalement? Est-ce qu'on s'adresse aux bonnes personnes quand on bloque comme ça l'accès à l'éducation ou l'accès à des universités?
Ben oui.
C'est là, souvent, je me dis... Et là où Maher avait raison, pour revenir sur Bill Maher, c'est... Vous avez l'indignation sélective. Pourquoi c'est pire quand il est question de la Palestine et pourquoi vous visez pas des... C'est pas le nombre de pays puis le nombre de victimes qui manquent dans le monde, hein, où il y a des troubles, des soulèvements. Pourquoi cette cause-là en particulier? Donc, pour ma part, c'est bien personnel, c'est mon interrogation. Est-ce qu'on a vraiment les bonnes cibles? Est-ce qu'on s'adresse aux bonnes personnes quand on occupe comme ça des campus universitaires pour cette question-là en particulier?
Mais quand tu parlais de Martin Luther King en terminale, j'ai la phrase de Thoreau, je crois. Je pense que c'est Thoreau qui disait « Dans un monde injuste, la place d'un homme juste est en prison ». Alors, c'est un peu ça là, qui les anime. Là. Le monde est injuste, je suis juste, donc je devrais être emprisonné. Emprisonnez-moi pour prouver à tout le monde à quel point je suis honnête.
C'est exactement ce qu'avait lu Martin Luther King. Donc, ton souvenir, ta mémoire, ton souvenir, c'est bon. C'est Thoreau qui est une avec Gandhi, qui sont les deux grandes inspirations, finalement, de l'action de Martin Luther King.
Eh ben, ça va brasser les images qu'on va voir aux États-Unis. Là, ça va être quelque chose. Merci beaucoup, Luc Laliberté. On se reparle demain. Merci, bonne journée.
Parfait, bye. Ouais.
Alors, ben, c'est tout le temps qu'il me reste déjà. Merci beaucoup à l'équipe formidable avec qui je travaille, à la recherche Flavie Boivin-Côté. Merci beaucoup. Il y avait Marianne Bessette ce matin un peu plus tôt. Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. Merci, Jessica Max pour la mise en ligne. On se reparle au prochain épisode.